Chapitre 69. Octobre 2000. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas balancé toute la vérité à Emmanuel. Il l'attendait, tendu, assis sur le canapé du salon. Il était 20h30. La cuisinière avait préparé un hachis parmentier et une salade verte. Comme Nina ne mangeait pas de viande, elle récupérait la purée à la surface du plat, mais cela la dégoûtait. L'employée ne se cachait plus pour lever les yeux au ciel lorsque Nina évoquait la préparation des repas. Pour elle, être végétarien était une tocade, un simple caprice. Elle maugréait parfois. Si elle avait bien faim, elle le mangerait son beefsteak. On voit bien qu'elle n'a jamais connu la guerre. « Toi non plus, tu n'as jamais connu la guerre », pensait Nina. Mais elle faisait mine de ne pas l'avoir entendue. « J'ai passé la journée à Lyon », commence-t-elle. « Il fallait que je donne un truc à Étienne. »« Quel truc ?» a questionné Emmanuel, agacé. « Un vieux truc que j'ai retrouvé. »« Et ton portable ? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. »« J'avais oublié de le charger. » Elle le voit serrer les poings. Emmanuel n'a jamais pu encaisser Étienne. Sans doute trop beau et trop arrogant, il dégage une force tranquille qui l'irrite. Et puis, Nina aime toujours Étienne, quand son mari ne lui inspire que répulsion. Même si elle s'efforce de sourire en permanence, son corps ne sait plus mentir. Depuis combien de temps fait-elle semblant de jouir? Combien de femmes font semblant tout court lorsqu'un profond ennui ou dégoût les submerge? Combien, pense-t-elle lorsqu'elle feint l'orgasme, combien font la même chose que moi en ce moment? Nina ne peut plus sentir son mari, dans tous les sens du terme. Même son odeur lui donne des nausées. Elle a appris à ne respirer que par la bouche lorsqu'il est présent. Elle en a parlé à Étienne après lui avoir donné la lettre de Clotilde. « Je vais quitter Emmanuel. » En se réveillant ce matin, sa décision était prise. « Il faut que j'aille voir Étienne. Je lui dois la vérité et la lettre de Clotilde. » Elle a d'abord essayé de le joindre plusieurs fois sur son portable. À la troisième, Étienne a fini par répondre. Du froid dans la voix lorsqu'il l'a reconnue. Il lui faisait toujours la gueule depuis le nouvel an dernier. Nina ne l'avait pas laissé en placer une. Elle a tout débité d'un trait, dans une urgence. « J'ai quelque chose pour toi, je vais te l'apporter aujourd'hui. Je quitte la Comelle dans 5 minutes. Je t'expliquerai tout quand je te verrai à Lyon. » Il y a eu un long silence.
« Je t'attends. » « Retrouve-moi au commissariat, on ira becter ensemble. »
Étienne lui a donné l'adresse.
« Tu verras, c'est facile à trouver, il y a un parking juste à côté. T'as quoi déjà comme bagnole ?»
Toujours cette obsession des voitures. « Une Polo noire. »
« Dac. »
Cette fois, Nina a senti dans la voix d'Étienne la joie de la retrouver. Même s'il faisait la gueule, il ne savait pas faire semblant. Lorsqu'elle est arrivée, elle l'a trouvé soucieux. Avant même de l'embrasser, il lui a dit « Qu'est-ce que t'as à me donner ? Une photo de classe ? Bonjour d'abord. Salut, excuse-moi. » Contrairement à Adrien, Étienne n'avait pas changé. Toujours brut de décoffrage. Il n'avait pas mis plusieurs couches de dorure sur sa véritable nature. Elle s'est sentie heureuse de le revoir. Elle l'a serré longtemps dans ses bras en murmurant. « Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pourquoi nous sommes-nous perdus ? Je te rappelle que tu nous as lâchés comme des merdes au nouvel an. Si tu avais un peu de jugeote, tu aurais compris que je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Le divorce, c'est pas fait pour les chiens. » Il l'a entraînée vers l'extérieur. « Viens, on se casse d'ici. » Ils ont longé quelques rues l'un contre l'autre. Elle avait passé son bras sous le sien. Quand ils étaient enfants, il détestait qu'elle fasse ça. « Arrête, on va croire que t'es ma nana. » Adrien, lui, acceptait volontiers. « Y a un bon lyonnais dans le coin, mais c'est plutôt tête de veau et cervelle d'agneau. Pas sûr que ça te plaise, » a ironisé Étienne. Ils ont ri au même moment et sont entrés dans une brasserie à 12h10. « Faut pas que je tarde, sinon je vais me faire tuer par Emmanuel, » a lâché Nina en regardant l'horloge accrochée au mur. « Si un jour il te touche, tu m'appelles ? Il est beaucoup trop malin. Si un jour il me touche, il sera trop tard. » Ils se sont installés dans un coin. Étienne a commandé une bouteille de vin. « Un flic a le droit de boire ?» s'est étonnée Nina. « Je suis en vacances. Depuis quand ? Depuis que tu m'as téléphoné ce matin ? Ça me fait vraiment plaisir de te voir. T'as vu, je suis moche. T'es pas moche, t'as un gros cul. Comme les bonnes femmes mariées, vous finissez toujours par fabriquer du gras. Nina a raconté son quotidien avec Emmanuel, sans pathos ni pleurnicherie. Elle voyait la fin du tunnel, sortait d'une sorte d'obscurité après s'être laissée enfermée dans un engrenage infernal. Ses faits et gestes scrutés par son mari et la cuisinière, aucune intimité même dans sa propre chambre, l'autre pouvait entrer sans frapper pour ranger du linge dans les armoires. L'obsession d'Emmanuel d'avoir un enfant, la contraception qu'elle prenait en douce, pas d'argent personnel, même la voiture ne lui appartenait pas, et tous ses achats passaient en notes de frais, étudiés point par la comptable de Damam. Moi qui te croyais plein aux as. Tout le monde le croit. Et la maison de ton grand-père, ça fait longtemps qu'il l'a revendue. Oui, elle allait partir, trouver un job. Elle n'avait que 24 ans, même si elle en paraissait 30. Elle allait maigrir, reprendre son corps et son esprit en main. Elle aurait sans doute besoin de lui pour la protéger, parce qu'elle était seule au monde, parce qu'elle n'osait pas en parler à Marie-Laure, et se réfugier chez les parents d'Étienne lui paraissait être la pire idée. C'était le premier endroit où se rendrait Emmanuel. Il fallait qu'elle quitte la Comelle, qu'elle se sauve. Sinon, son mari la retrouverait. En janvier, il repartirait 3 semaines en voyage d'affaires. Elle en profiterait pour disparaître. Attendre encore 3 mois, ce ne serait pas la mer à boire après les années de galère qu'elle traînait derrière elle. Et en parlant de boire, il fallait qu'elle avoue à Étienne que chaque jour, pour tenir le coup, elle picolait pour supporter sa prison dorée. « Putain !» a juré Étienne. « On dirait du Zola. Tu te souviens, au bahut, on devait lire l'Assommoir, Nana, Germinal. Ça me faisait tellement chier que tu me les as lus à voix haute dans ta piole. Ben, ce que tu me racontes, c'est pareil. » Ils ont beaucoup ri, se sont moqués d'eux, de leurs mauvais choix. Puis Nina a bifurqué sur Adrien. Elle a raconté à Étienne qu'elle était partie à Paris pour se réfugier chez lui, qu'il l'avait tellement ignorée le soir au théâtre qu'elle avait failli en mourir de chagrin. Étienne a plaidé la cause d'Adrien. C'est peut-être à cause de ce qu'il dit dans son livre. Quel livre ? A demandé Nina. Blanc d'Espagne. De quoi tu parles ? Je pensais que tu savais. Savais quoi ? C'est lui qui a écrit ce bouquin. Nina a encaissé. Blanc d'Espagne. Le roman dans lequel elle avait caché les enveloppes. Comment était-ce possible qu'elle ne le sache pas ? Qu'Adrien ne lui ait rien dit ? Tu dois confondre. C'est Sacha quelque chose qui l'a écrit. C'est un pseudo. C'est Louise qui te l'a dit ? Oui. Et ça parle de quoi ? Tu verras. Deuxième trahison. Nina a senti les larmes monter, les a ravalées. Elle a balayé l'image d'Adrien la snobant au théâtre. Elle pensait qu'il était son ami, son frère, celui qui lui avait juré un amour éternel. Il n'était plus rien du tout. Nina a sciemment changé de conversation, posé des questions à Étienne, sans pour autant oublier ce qu'elle venait d'apprendre. Comment allait Louise ? La vie à Lyon ? Était-il amoureux ? Est-ce que j'ai une gueule à être amoureux, sérieux, Nina ? Très peu pour moi. Mais franchement, j'ai fait le bon choix. Quand j'ai 3 jours, je pars skier ou surfer. J'ai la mer et la montagne pas loin. Mes collègues sont sympas. Les cafés froids, la trouille au ventre, la fatigue des fins de garde à vue, resserrer la même petite frappe chaque mois parce qu'un juge à la con a décidé de lui donner une dernière chance. Arriver sur des scènes de crime. Là, jusqu'à ce que t'arrêtes le coupable, tu lâches rien. Tu dors même plus. Tu as déjà fait des recherches sur Clotilde ? Étienne s'est liquéfié. Ouais ? Pourquoi tu me demandes ça ? Quand j'étais petite, je volais le courrier de mon grand-père. C'est pour ça qu'il m'a mis une raclée au collège. Tu te souviens ? Bien sûr que je me souviens. Je me suis toujours demandé pourquoi. Quand il est mort, j'ai culpabilisé. J'ai pensé que c'était ma faute, que Dieu me punissait. Tu sais que je crois pas à ce genre de conneries. Je sais. C'est une longue histoire, mais l'année dernière, j'ai récupéré la sacoche que papy avait sur lui le jour où il est mort. Elle était pleine de courriers qu'il n'avait pas eu le temps de distribuer. Personne l'a su. J'ai tout lu, j'ai refermé les enveloppes, et je suis allée les mettre dans leur boîte, 5 ans après. T'es sérieuse ? Nina a baissé les yeux sans répondre. Étienne était entraîné au mensonge d'autrui. Cela faisait partie de son quotidien. Il a compris qu'elle n'inventait rien. Et pourquoi inventer une chose pareille? Il s'est remémoré ce jour, dans la cour du collège, quand Pierre Beau avait débarqué comme un fou pour frapper sa petite fille. Il en avait été profondément marqué. Il n'avait pas su la protéger. Comme aujourd'hui. Comme avec l'autre taré qui lui servait de mari. Il était capable de défendre des gens dont il ignorait l'identité, mais pas son ami d'enfance. Dans ce courrier, a repris Nina, il y avait une lettre pour toi. Une lettre de Clotilde. Étienne s'est demandé s'il était en plein rêve. Comment cette conversation avait pu virer au cauchemar. Nina s'est aperçue de son désarroi. Elle a lu la panique dans son regard. Elle date de quand, cette lettre? Du 10 août 1994. 2 jours avant l'accident de papy. Étienne est devenu pâle, comme un mort. Tu l'as quand même pas ouverte? Si. Le soir où Adrien m'a trahi, j'étais en colère contre lui, contre toi, et pendant des jours je me suis demandé s'il fallait te la donner ou pas. Elle a sorti et tendu la lettre à Étienne, qu'il l'a lue plusieurs fois en silence. De temps en temps, il posait des yeux assassins sur Nina. Il était plein de honte, piqué à vif. À part Adrien, il n'avait jamais avoué à personne que Clotilde était enceinte. Il a glissé la lettre dans la poche intérieure de son blouson. « Tu sais que je pourrais t'arrêter pour vol? Tu sais que c'est passible de prison ce que t'as fait? Je suis désolée. Je ne recommencerai plus, je... » Nina n'a pas pu finir sa phrase. Il s'est levé, a jeté des billets sur la table. Pour l'addition et ton essence. Puis il a quitté la brasserie comme un fou. Nina a crié son prénom, mais il ne s'est pas retourné. Seul au monde. Elle a retrouvé sa voiture sur le parking et est rentrée chez elle. Depuis le canapé, Emmanuel continue de l'observer. On passe à table? J'ai une faim de loup avec toutes ces conneries. Étienne va bien? Oui, répond Nina en grattant le dessus du hachis. J'ai fait appel à un organisme pour adopter un enfant. Pardon? Tu as très bien entendu. D'habitude, à 7 heures, Nina a déjà bu quelques verres de vin pour supporter Emmanuel. Mais là, elle est sobre. Elle se rend compte qu'elle n'est plus jamais sobre lorsqu'il est présent, et ce depuis des années. « Tu t'engages sans m'en parler? À moi? La mère ?» En prononçant ces deux mots, « la mère », Nina crache sa purée sur la table sous l'œil épouvanté de son mari. Elle n'en revient pas elle-même, attrape de l'essuie-tout, nettoie, honteuse, et contre toute attente, elle est prise d'un fou rire irrépressible. « Tu as bu ?» lui demande Emmanuel. Cette question ne fait qu'accentuer son fou rire. Elle essaie d'articuler « Pour une fois, non !» Mais elle n'y parvient pas. Elle est pliée en deux sur sa chaise. Depuis quand n'a-t-elle pas ri ainsi? Elle se rappelle les mots d'Étienne. « Ta vie, c'est du Zola !» Impossible de décrocher de cette phrase, de ce constat implacable. Elle se voit dans sa cuisine hors de prix, près du mari dont tout le monde rêve, en train de gratter sa purée parce qu'elle déteste la viande et que la cuisinière fait exprès d'en préparer, et d'apprendre qu'il a fait une demande d'adoption sans lui en parler. Ta vie, c'est du Zola. Ce qui devrait lui faire pleurer des rivières a l'effet inverse. Son rire nerveux se cogne aux belles tapisseries de la maison qu'elle habite sans y vivre. Nathalie s'approche d'eux, l'air dubitatif, et là, de la voir, pour Nina, c'est comme un électrochoc. Qu'est-ce qu'elle fout encore là ? Nina a du mal à respirer. Elle est à deux doigts de faire une crise d'asthme. Elle se redresse sur sa chaise et ne rit plus du tout. Elle se met à hurler à la cuisinière. « Dégagez de chez moi! Je veux plus vous voir! Ous, dégagez !» Interdite, l'autre regarde Emmanuel pour savoir ce qu'elle doit faire. « Arrêtez de jeter mon mari comme ça! C'est moi qui vous parle! Sortez tout de suite !» Nathalie attrape son manteau dans le vestibule et claque la porte sans se retourner. « Qu'est-ce qui te prend ?» demande Emmanuel à sa femme. « Il me prend que je veux pas d'enfant. Je n'en voudrai jamais. Je t'ai trompée sur la marchandise. Il me prend que je me demande, oui, je me demande comment il est possible que tu aies engagé une procédure d'adoption sans m'en parler. » Elle commence à trembler. Elle vient de libérer des mots retenus depuis trop longtemps. Ils sortent mal, comme tout ce qu'on laisse échapper sous l'emprise de la colère. La réaction d'Emmanuel est aussi inattendue que son fou rire. Il lui sourit avec mépris. Sûr de lui. Il la toise comme si elle était une moins que rien, ou un objet qui se serait mis à parler, une incongruité. Alors elle se jette sur lui pour le frapper. D'abord les épaules, puis les bras, le dos, le ventre. Elle frappe, aveuglée par la rage, frappe encore, lui donne des coups de pied. Et lui sourit de plus en plus. Quand elle réalise ce qu'elle est en train de faire, elle se met à hurler. Il la regarde, toujours en souriant. Un sourire qui fait peur, terrorise même. Ma pauvre fille, je t'ai ramassée dans la rue. Et crois-moi, on va l'avoir, cet enfant. Et tu vas t'en occuper jour et nuit. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de téléphoner à Nathalie pour présenter tes excuses. Jamais. Réfléchis bien. J'ai le pouvoir de te faire enfermer sur le champ. Les asiles sont remplis de gens de ton espèce. Seuls, dépressifs, désœuvrés et alcooliques. J'ai le bras très long. Un coup de téléphone à notre respecté médecin de famille et tu finiras ta vie dans une camisole. Tu ne sauras même plus comment tu t'appelles. N'oublie jamais, jamais que tu es ma femme. Les procédures, c'est moi qui les signe. Procédure d'adoption, procédure de divorce, procédure d'internement. Et ne compte pas sur tes soi-disant amis pour venir te chercher. Ton flic et ton PD se foutent éperdument de toi. Ils te laisseront t'enfoncer dans ta merde sans bouger le petit doigt. La seule personne qui t'aime et sur qui tu pourras toujours compter sur cette terre, c'est moi. Mais ça, tu es bien trop conne pour le comprendre. Emmanuel monte dans la chambre, laissant Nina nettoyer les restes du dîner. Quelques minutes plus tard, Nina monte à son tour. Elle se déshabille, prend une douche, repense à la colère d'Étienne et au mot « adoption » prononcé par son mari. Elle crème son corps sans le regarder, se colle contre Emmanuel docilement, comme un chien qui vient de bousiller la chaussure de son maître et cherche son pardon. Elle se laisse faire, gémit sur commande. Une fois que son mari s'est endormi sur elle, elle attend une vingtaine de minutes, les yeux ouverts dans l'obscurité. Puis elle le pousse délicatement sur le côté, se lève sans faire de bruit, allume sa lampe de chevet et saisit Blanc d'Espagne, qui est juste à côté d'elle, à portée de main, depuis le jour de la Coupe du Monde de football en 1998. Elle se souvient parfaitement du moment où elle l'a posée dans son caddie. C'était un moment heureux. Depuis le matin, elle se répétait « Ce soir, Étienne et Adrien viennent dîner à la maison. » Et ils sont arrivés ensemble. Et elle a retenu ses larmes pour qu'Emmanuel ne voie pas que ses deux amis, elle les aimait bien plus que lui. Il y avait aussi les Lyonnais. Ils ont tous hurlé de joie devant la télé. Cela a été le dernier beau jour du reste de sa vie. Après, les trois se sont perdus de vue. Elle a eu le temps long. Avoir le temps long. Quelle expression juste. Des blancs, des silences et des absences se sont immiscés entre les coups de téléphone et les retrouvailles. Et elle a rangé le roman dont la quatrième de couverture l'avait laissée songeuse, hésitante. C'est comme si elle était passée à côté d'Adrien sans le savoir. Il y a des livres que l'on rate, comme certaines rencontres. On passe à côté d'histoires et de gens qui auraient pu tout changer, à cause d'un malentendu, d'une couverture, ou d'un résumé passable, d'un a priori. Heureusement que parfois, la vie insiste. L'apparence n'est rien. C'est au fond du cœur qu'est la plaie. Euripide. J'ai 3 ans. Nous formons des rondes dans la cour. Il y a des ballons, des cerceaux sur le sol, des parcours de jeu tracés à la craie. Parfois, on nous sépare. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Je reste dans le groupe des filles. Les petites se marrent. Leur rire, je les gobe, comme les marshmallows que l'on nous distribue après la sieste. J'ai 6 ans. Je le dis à quelqu'un pour la première fois. Je me livre. C'est un vieil homme que je ne connais pas et qui ne m'inspire pas particulièrement confiance. Je me souviens qu'il sent mauvais, a des sourcils gris broussailleux et le teint cireux. J'ai une méchante angine. Je grelotte de fièvre sur la table d'auscultation. Ma mère est dans la salle d'attente. C'est la première fois que je suis en tête-à-tête avec un adulte. Un docteur, c'est là pour te soigner quand tu as mal quelque part. J'ai mal quelque part. Cela fait 5 minutes que je décrypte, fascinée, Deux affiches qui sont punaisées côte à côte sur un mur, près d'une toise. L'illustration d'un garçon et d'une fille prépubère. Toutes les parties de leur corps, ainsi que leurs organes, sont nommées. Ils sont identiques. Tube digestif, foie, rein, estomac, bras, jambes, pieds, cœur. Il n'y a que dans le bas-ventre que les noms diffèrent. J'ai du mal à lire « organes génitaux ». Et je n'ai pas la moindre idée de ce que cela signifie. Subjuguée par ces images, j'ouvre la cage à mon secret pour la première fois. Je suis une fille. Comment ? Me dit l'homme, concentré sur son tensiomètre. Je suis une fille. Le médecin fronce ses sourcils en bataille, ce qui lui confère un air débonnaire, à cause du bordel sous son front. Mais tout à coup, il ressemble à un clown. De ceux qui me terrorisent, mais font rire les autres enfants dans les cirques et aux anniversaires. Il ne répond pas et pose une de ses paluches rêches sur mon front. Tu es brûlant. Tu délires, petit. C'est quoi délirer ? Tu es fou. Ce sont les symptômes de la fièvre. Je voudrais ravaler mon secret. Mais les derniers mots sortent seuls. Quand on déloge une phrase prisonnière depuis trop longtemps, elle profite de la liberté. Mais mon zizi, c'est à quel âge qu'il va partir ? Il cesse de froncer les sourcils et me saisit par les épaules. Il me fait mal. Exit le teint cireux. Tout le sang contenu dans son corps semble lui monter à la tête. Il a la couleur d'un litron de piquette. Qui t'a raconté des sornettes pareilles ? Je comprends alors que je dois emmurer la fille que j'ai à l'intérieur, l'enfermer dans le silence. Alors je mens. Je dissimule. Je me mets à rire, ma gorge brûle. Personne. J'ai entendu un copain dire ça à l'école. On ne parle pas de ces choses-là, tu m'entends ? Tes parents, ils t'ont fait comme tu es, un petit garçon. Tu es né garçon, tu mourras garçon. Ne t'imagine rien d'autre. Ce sont des idées contre nature. C'est quoi contre nature ? C'est le diable. Et le diable, on le chasse de son esprit. De sa tête, si tu préfères. Pour ça, il faut bien travailler à l'école et faire beaucoup de sport. Il reprend sa place derrière son bureau, me prescrit un antibiotique, de l'aspirine, un spray et des pastilles pour la gorge. Je lui tends le chèque que ma mère a pré-rempli et je lui dis « Au revoir, monsieur. » Je n'en parle plus. Emmanuel se réveille. Il dit à Nina qu'il commence tôt demain, que la lumière l'empêche de dormir. Nina referme Blanc d'Espagne et éteint. Elle tremble. Éteint. Oui, elle a éteint la lumière comme ces gens qui ne veulent plus rien voir. Fermer les volets. Verrouiller les portes à double tour. Elle serre le livre contre sa poitrine, le respire. Elle cherche l'odeur d'Adrien entre les pages, le parfum de sa peau. Ou celui de l'autre. Comment a-t-elle pu ne jamais la sentir, la deviner ? Pendant 8 ans, ils ont mangé ensemble, marché, dormi, pris des douches, fait leurs devoirs, nagé, chanté ensemble. Ils se téléphonaient chaque soir avant de s'endormir. Tu fais quoi ? Tu regardes quoi ? Tu penses à quoi ? Bonne nuit, je t'aime, à demain. Pourquoi tu ne dis jamais rien, Adrien ?
Je suis bien. Je t'écoute.
Pendant 8 ans, ils ne se sont pas quittés. De la primaire au lycée. Ils ont fait des projets d'avenir, mélangé leur sang, pleuré, ri, tremblé. Se sont tenus la main, anticipant ou ressentant ce que l'autre était en train de faire, de vivre, même lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. En découvrant ce qu'Adrien cachait, étouffait, Nina a le sentiment de ne pas se connaître. Qui est-elle ? Qui est cette personne naïve et aveugle ? Elle se fait l'effet de ces femmes dont les maris sont des criminels de guerre ou des tueurs en série et qui ne savent rien. Parce qu'elles sont dans le déni. Parce que leur inconscient ne veut rien entendre. Elle se réveille un beau matin, comme toutes ces connes des contes, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, et elle tombe des nues quand elle se confronte à la réalité. Dans un premier temps, Nina vécut ce roman comme une accusation, un doigt pointé sur elle. « Tu n'as rien compris. Tu ne m'as pas aimée. » Mais en relisant Blanc d'Espagne, Nina avait fini par intégrer que le garçon et la fille étaient la même personne, celle qu'elle avait côtoyée pendant 8 ans. Son attirance pour la lecture, l'écriture, le cinéma, le bleu, le baba au rhum, la galette des rois, Louise, les œufs à la coque et l'été, l'aversion pour les serpents, les clowns et les carnavals, ne revenait qu'à un seul être de chair.